Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
On a des choses qui sont rendues visibles de manière très très, c'est évidente, là où elles peuvent être moins évidentes ailleurs, mais en fait on n'est pas dans un cas, pas du tout dans un cas exceptionnel, enfin moi je me refuse à dire ça. Et donc effectivement, dans la région, c'est le même jeu de la carotte et du bâton. Évidemment, c'est appliqué par les États-Unis de dire soit vous collaborez et vous en verrez, il y aura des avantages, soit si vous ne collaborez pas, il y aura toutes les sanctions prises contre vous.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Ok, je vais lancer l'enregistrement. Bismillah. Salam alaykoum wa rahmatullah, Taher.
Alaykoum salam, Abdelrahman.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Ça va bien. Ton prénom, les gens le prononcent comment en général? Taher?
Taher.
Taher, ok. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui s'appellent Taher. Ça vient du mot tahara, purification, ce genre de choses en
C'est
arabe?
ça. C'est
C'est
un peu
ça?
l'équivalent de Tahar au Maghreb.
Ouais.
Mais en Mashrek, on dit Tahar plutôt.
D'accord, ok. Écoute, Tahar, c'est un plaisir de t'accueillir sur mon podcast Muslim Makers.
Un plaisir pour moi.
Donc, tu es actuellement donc, en direct de Jérusalem où tu vis actuellement, tu es en mission. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement, nous dire qui tu es, où est-ce que tu es exactement, ce que tu fais.
Et d'accord, très bien. Alors, je suis Taher El Abadi, chercheur en économie politique. Je suis actuellement en poste à Jérusalem, à l'Institut français du Proche-Orient. Voilà, où je mène mes travaux, je poursuis mes travaux en économie. Donc, je travaille sur les zones industrielles palestiniennes. Et voilà, je suis ici depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans à peu près. Et j'ai encore quelques années. Au poste.
Ok, c'est des mandats de combien de temps?
C'est des mandats de 2 ans renouvelables pour 2 ans, on va dire.
D'accord.
J'ai fait la moitié de la mission.
Super. T'as grandi dans quelle région?
Alors moi je suis né en Syrie. Je suis né à
Ok.
Damas. Et d'un père de Palestine et d'une mère du Liban. Mais je suis venu en France très très jeune, très petit même. Et j'ai grandi d'abord dans la Loire, près de Saint-Étienne. Puis on va dire au collège, on est parti à Lyon, où j'ai passé mon adolescence. Puis finalement, je suis monté à Paris pour poursuivre mes études au niveau master. Et donc là dernièrement, avant de venir ici, j'étais en région parisienne.
D'accord. Tu as fait des études dans quel domaine, précisément?
Bon après mon bac, j'ai fait une licence bidisciplinaire. Ça s'appelait comme ça à Lyon 2. On avait une possibilité de faire donc une espèce de double licence. J'ai fait sciences économie et sciences politiques. Et puis je suis resté un peu sur ma faim, on va dire que j'avais choisi l'économie parce que ça me plaisait jusque-là au lycée. Puis finalement, je suis un peu resté sur ma faim, sur ce qu'on nous enseignait en licence. Je trouvais l'économie, du coup, à ce moment-là, trop abstraite
Ok.
et un peu éloignée des préoccupations sociétales qu'on avait un peu en SES au lycée. Au niveau master, ensuite, j'ai poursuivi sur un master plutôt porté sur les questions de développement, avec du coup un peu cette intuition de vouloir faire de l'économie un peu plus proche du réel, des gens, voilà, du territoire. Et donc ça, c'était mon master. Entre-temps, bon, il y avait un peu l'actualité de la région, ici, Palestine, Liban, en particulier. Et puis j'avais aussi un engagement politique ou une conscience politique croissante. Ça m'a donné envie de me spécialiser sur, enfin, d'étudier cette région en fait. Donc voilà, je liais mes questions de mes études de développement à l'étude de cette région et à m'intéresser à son développement économique. C'est un peu la porte d'entrée. Donc je me suis tourné vers voilà, ces questions-là et en même temps là encore j'étais un petit peu voilà, je suis resté un peu déçu de ce que m'apportaient les théories du développement sur cette région.
Avant que tu continues, je voulais revenir sur qu'est-ce qui t'intéressait en fait. Est-ce que tu savais que tu voulais travailler dans le domaine enfin, économique, politique dès le départ ou c'est un choix par défaut au départ?
Non, c'était bon. Je m'intéressais vraiment. Il y avait cet intérêt pour l'économie parce que j'avais découvert ça au lycée et que j'aimais bien ça. Et puis après, voilà, malgré le fait que, enfin, malgré mes déceptions, on va dire, voilà, je me laissais un peu porter par le
Ouais.
par le flot, quoi.
D'accord.
Je savais pas trop où aller d'autre. La science politique, ça m'intéressait, mais je savais que j'avais pas trop envie d'en faire une carrière. Ça, voilà, j'ai pas de raison pas de raison vraiment particulière, mais du coup je m'accrochais, j'essayais de garder un peu l'économie comme cap
Ouais.
et tout et voilà, en essayant de voilà encore une fois de me rapprocher de d'une économie qui ressemblait plus à ce que j'avais fait au lycée
OK.
et donc je pensais que les questions du développement allaient me permettre ça. Ça me l'a permis en partie hein, du coup quand même. Les métiers du développement, ça me semblait être quelque chose de d'intéressant, donc j'allais vers ça. D'ailleurs, j'ai fait un master pro, donc je pensais pas continuer dans la recherche à ce moment-là. Je pensais vraiment aller vers une carrière de développement. Et donc, je disais qu'en même temps, je trouvais que, enfin, j'étais un peu resté sur ma faim à l'issue du master parce que entre-temps, j'allais souvent, je me rendais en Palestine chez ma famille. J'y ai fait également un stage d'études et j'avais en fait les théories du développement, c'est un peu comme ça que je l'avais saisi à l'époque, c'est que bon pour le développement tout ce qui est du le contexte d'occupation, la colonisation, la guerre, tout ça apparaît un peu comme des variables, des espèces de paramètres avec lesquels le développeur doit composer. Ça fait partie des faiblesses, des fragilités, mais qu'on met au même plan que d'autres forces et d'autres ressources qu'on va trouver ailleurs. Et moi, ça me voilà. C'est vraiment cette. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve encore dans la littérature économique sur la Palestine. C'est-à-dire que c'est comme ça que en majorité, c'est comme ça que le conflit, l'occupation, la colonisation sont traités comme des variables. Et moi, au contraire, il me semblait que voilà, j'avais cette intuition un peu que le cœur du problème, en fait, c'était l'occupation. C'était pas une variable avec laquelle il fallait composer, mais vraiment voilà, le problème à résoudre. Et voilà, donc finalement, c'est un peu comme ça que je me suis inscrit en thèse voilà, pour suivre en doctorat. Aller plus franchement vers l'économie politique en réfléchissant à ces questions de comment est-ce que finalement comment est-ce que l'économie traite du conflit, comment est-ce que l'économie peut être un terrain du conflit, comment est-ce que l'économie c'est un lieu où il y a des rapports de pouvoir qui sont présents et donc pas du tout cet espace de contournement du politique que j'avais l'impression de trouver dans les théories standards, quoi, les théories
Ouais.
habituelles.
Ouais. Ok. Oh, c'est. Enfin, je me dirais si je me trompe, mais ce que je comprends de ma discussion avec toi et puis des discussions que j'avais eues auparavant avec d'autres personnes, c'est que, enfin, grosso modo, il y a une situation assez difficile donc, dans le conflit israélo-palestinien. Et donc, on a Israël qui essaye de développer, on va dire, de stabiliser sa situation et de développer son économie avec la région pour réduire les craintes qu'elle peut avoir de conflits, quoi que ce soit, et en même temps développer son économie. Et donc, ce qu'Israël essaye de faire, c'est de séparer le politique de l'économie, de dire aux pays avoisinants, mettons-nous d'accord sur l'aspect économique, réglons ça, séparons le problème en deux choses, la partie économique sur laquelle on peut avancer, et le politique, où là, bon, on est un peu bloqué, mais voilà, c'est un autre problème. Au moins, on avance sur la partie économique. Est-ce que c'est bien ça qui se passe?
Ouais, il y a vraiment de ça. Il y a pas que ça qui se passe, mais ça, c'est une grosse partie de l'affaire. Et justement, en fait, ça a été un peu le point de départ de ma réflexion de thèse. En fait, c'est pas Israël qui est à l'initiative de cette façon de cette approche. C'est un peu bon, ça a été principalement les États-Unis à ce moment-là, mais si tu veux, c'est une approche qui a été mise en place dans le cadre des processus de paix qui ont été lancés entre Israël et ses voisins arabes et les Palestiniens. C'était cette idée que finalement, dans le politique, les différentes parties n'arriveraient pas à se mettre d'accord parce que il y a des points de tension qui sont la question de souveraineté. Pour les Palestiniens, la question du retour des réfugiés, la question de la capitale, de Jérusalem, du sort de Jérusalem. Donc, il y a différentes questions comme ça qui étaient des points sensibles et sur lesquels il n'y avait pas d'accord. Et l'idée, c'était de dire on gèle ces questions politiques et en attendant, on essaye de trouver des terrains d'entente et des intérêts communs. Et de créer des partenariats et des collaborations sur le terrain de l'économie. Avec cette idée qui est en fait propre à l'approche libérale de l'économie, qui est cette idée que l'économie, c'est un espace à part, séparé du politique, qui est vide de tout pouvoir, de tout rapport de pouvoir, où domine les forces du marché, où chacun voilà, agit en fonction de son intérêt, dans une espèce de fluidité parfaite où tout va bien, et que en fait finalement ce qui va pas c'est le politique. Les frictions viennent du politique, les problèmes viennent du politique, des passions, de l'irrationalité des acteurs, etc. Et donc c'était un peu le voilà, ça c'est le pari fait par les Américains dans lequel les Israéliens ont marché. Et du coup, les Iraniens trouvaient leurs intérêts, évidemment. Et dans lequel les Palestiniens ont marché aussi à partir des accords d'Oslo en
Ouais.
93. Mais sauf que ça, c'est qu'une partie de la réalité, je te disais, parce que l'économie, c'est à la fois un terrain de contournement du politique, mais c'est aussi vraiment un terrain c'est un terrain de la colonisation en cours. C'est un terrain de la contre-insurrection contre les Palestiniens. Et donc voilà, ces différents éléments que j'ai pu identifier plus tard au cours de ma thèse, on pourra y revenir si tu veux.
Ouais.
Mais voilà, enfin, en tout cas, je disais, le point de départ de ma thèse, c'était ça, c'était de peut-être réussir à contredire cette idée que l'économie était séparée du politique et que l'économie était un terrain possible. À lui seul de la solution dans la région.
Très bien, bah, ça va être super intéressant, je pense. On va revenir dessus. Juste avant ça, donc tu disais que essayer de développer les accords économiques, c'était quelque chose dans la région, en tout cas, c'était quelque chose qui était plutôt l'initiative des États-Unis. Quelles étaient les promesses, quels sont les leviers, les incentives qui sont donnés, qui ont été donnés ou qui continuent d'être donnés à la fois à Israël et aux pays avoisinants? Pour justement développer ces accords économiques, quels sont les intérêts de chaque côté? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus, comment dire, est-ce qu'on peut aller plus en profondeur sur le fait qu'il peut y avoir aussi des déblocages, on va dire, économiques qui peuvent être énormes pour les pays autour si, enfin, ils développent les accords avec Israël? Est-ce que tu peux développer dans ce sens-là?
Ouais. En fait, bon, d'abord peut-être pour Israël, c'est vrai, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que d'une vision d'un expansionnisme territorial, Israël a accepté à un moment l'idée de dire bon ben finalement on peut peut-être finalement réaliser notre expansionnisme via l'économie plutôt que par le territoire. C'était en fait bon, ça s'est pas passé comme ça hein. Y compris Israël n'a pas joué le jeu, mais l'idée elle avait été écrite noir sur blanc, c'était de dire que finalement si Israël arrivait à devenir un centre économique dans la région, elle pourrait réussir à dominer la région et assurer finalement sa stabilité en ayant des relations économiques avec tous ses voisins. Et que ses voisins auraient trop d'intérêt à perdre en entrant en guerre, donc finalement choisiraient de rester dans le giron de l'économie israélienne. Et donc c'est notamment Shimon Peres à l'époque donc qui a été ensuite président je crois qu'il était à l'époque président d'Israël qui avait écrit un livre qui s'appelait Le Nouveau Moyen-Orient, et dans ce Nouveau Moyen-Orient à l'américaine en fait il était question de d'une économie israélienne rayonnante qui allait être le centre voilà de l'économie régionale. Pour les pays voisins, l'attrait, il venait de là aussi. C'est-à-dire, bon, il y a une instabilité dans la région du fait du conflit. Ça, c'est la lecture que qu'ont proposé les Américains, en fait, c'est de dire finalement, vous voyez, les Palestiniens sont une source d'instabilité. La cause palestinienne et le conflit israélo-arabe est source d'instabilité. Ça vous met en retard par rapport à l'économie mondiale, alors que vous pourriez très bien profiter de votre voisin israélien qui a des capitaux, qui a de la haute technologie, qui a énormément d'avantages sur le plan économique. Et donc, pourquoi pas essayer de, voilà, de créer une Pax Americana, en fait, voilà, une paix qui allait être sous parrainage américain dans la région. Et finalement de profiter un peu de cette voilà essor économique. La difficulté, elle était en fait principalement pour les Palestiniens, c'est-à-dire que les régimes arabes pour la plupart comprenaient bien que sans solution pour les Palestiniens, ça allait être difficile de stabiliser la région. Donc l'idée, elle était de dire, mais il faut que les Palestiniens, d'une manière ou d'une autre, y trouvent leur compte. Et ce qui a été fait, c'est que bon, c'était un peu le pari qu'il y a eu avec les différents accords de paix, donc jusqu'aux accords d'Oslo, c'était de dire il va falloir booster le développement économique palestinien de manière à ce que les Palestiniens apprécient les dividendes de la paix. C'était le terme employé. Et donc ça devait passer par la communauté internationale, en fait, s'est engagée à ce moment-là à verser une aide financière aux Palestiniens, donc que ce soit à l'autorité palestinienne naissante ou aux différents organismes, ONG palestiniennes, etc., à la société civile. L'idée était de dire, voilà, bon, les Palestiniens vont goûter aux avantages de la paix grâce à cette aide internationale, puisqu'il va y avoir là aussi un essor économique, de l'emploi, de la croissance, des revenus. Et c'était un peu le pari. C'est comme ça que ça devait marcher. Ce qui s'est passé de façon très concrète, en fait, ce qui aujourd'hui amène tous les observateurs à dire que cette stratégie a été un échec, c'est qu'en fait, elle s'appuyait un peu sur un statu quo politique. L'idée, c'était de, il y a un statu quo politique et en attendant, on essaye de créer un maximum d'avantages pour tout le monde sur le plan économique. Sauf qu'en fait, les Israéliens sur le terrain n'ont pas du tout maintenu ce statu quo politique. La colonisation a redoublé, l'occupation a perduré, l'État palestinien qui devait voir le jour n'a jamais vu le jour. Donc il y a tout un tas de freins qui non seulement se sont maintenus, mais en fait ont redoublé pour les Palestiniens. Ils font que, y compris le développement économique et la croissance économique promis, n'ont pas eu lieu. C'est l'aide internationale qui a maintenu à bout de bras l'économie palestinienne sous perfusion pendant tout ce temps. Donc voilà un peu en résumé ce qui s'est passé.
Ouais. Et en parallèle, du coup, pour les pays avoisinants, il y a quand même eu quelques progrès par rapport à ça, ou ça a évolué?
Mais en fait, ça, non, parce que la question est que donc il y a eu des accords de paix avec les pays avoisinants. Le premier, c'était avec l'Égypte. Puis il y a eu la Jordanie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite sur le terrain, donc et puis ensuite il y a eu Oslo avec les Palestiniens. Le fait est que sur le terrain, très vite, Voilà, les choses se sont tendues. Il y a eu, il a été visible qu'il y avait davantage de colonisation, davantage de friction et de conflits. Et donc, les accords de paix sont restés un peu, voilà, c'est resté des cadres d'ensemble, mais avec un tabou très vite qui est revenu sur sur l'idée de normaliser la présence d'Israël. C'est-à-dire que même en Égypte ou en Jordanie, qui ont pourtant signé des accords de paix maintenant il y a plus de 30 ans, l'idée de coopérer avec les Israéliens, ça reste quelque chose de très voilà, de très tendu, tabou, difficile. C'est-à-dire, ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais ça veut dire que du coup ça a limité les possibilités de cette ouverture, qui fait que finalement, oui, économiquement, Israël n'a pas réussi à s'inscrire véritablement dans cette économie régionale. Mais bon, d'une certaine manière, le mal était fait, on va dire. Enfin, pour Israël, il faut savoir qu'à l'époque, le boycott arabe, c'était pas juste le boycott arabe, c'était aussi le boycott de toutes les économies qui et de tous les pays qui avaient des relations avec des relations fortes avec les États arabes. Donc, on avait beaucoup de pays du tiers-monde qui boycottaient également l'économie israélienne. Tous ces pays-là, après Oslo, vont se mettre à avoir des relations avec Israël, et finalement, Israël était plus intéressé par des relations avec l'Inde ou la Chine qu'avec les économies arabes avoisinantes. Donc Israël y a trouvé son compte en termes économiques, en termes politiques moins, puisque du coup on le voit encore jusqu'à nos jours. Sa présence reste voilà, facilement menacée, fragilisée dans la région. Mais voilà, mais pour les économies arabes voisines, du coup, non, il n'y a pas eu de, à l'époque en tout cas, il y a pas eu de véritables avantages. Il y a eu des tentatives, hein, moi ça c'est quelque chose que j'ai étudié, de créer par exemple des investissements joints, notamment dans ces zones industrielles que j'étudie, en Jordanie, en Égypte. Mais pareil, en fait ça a marché quelque temps, puis très vite ça s'est un peu écroulé, parce que pour toutes ces que je disais.
Juste pour terminer sur ce point, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, j'ai l'impression, je pense que c'est une réalité aussi, qu'il y a un certain, enfin, en fait, que Israël tout seul n'a pas forcément le pouvoir de développer tout ça, et que, enfin, de développer les accords économiques, etc., et que les États arabes en soi n'ont pas spécialement d'intérêt si ça prenait en compte qu'Israël, mais qu'il y a un énorme aussi, entre guillemets, chantage de la part des États-Unis qui, eux, derrière, peuvent vraiment prendre des décisions en termes de développement économique pour ces pays-là, faciliter le développement économique, et que sans les États-Unis, les pays avoisinants auraient beaucoup de difficultés à se développer. Et donc, en fait, ça retombe du côté des États-Unis. Ce n'est pas vraiment Israël qui est capable de développer ces accords-là par lui-même.
Ouais, t'as tout à fait raison. En fait, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de, ouais, c'est un peu ça. Encore une fois, c'est ce que j'essaie de d'étudier là, à travers ces questions de zones franches et de zones industrielles. C'est des dispositifs qui montrent bien comment est-ce que finalement ces pays de la région, les Palestiniens sont un peu les derniers dans le domaine, ont depuis les années 90 mené tout un tas de politiques et pris des mesures pour essayer de s'inscrire dans la mondialisation économique, en fait. Et cette mondialisation, bon, souvent ce qu'on nous en dit, un peu, voilà, c'est que c'est une mondialisation un peu spontanée qui se fait, voilà, dans l'intérêt de tous. Moi, ce que j'étudie dans la région, c'est on voit très bien dans cette région comment la mondialisation, elle est polarisée. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui poussent à la mondialisation dans cette région, qui mettent en œuvre les lois, les cadres, enfin qui poussent aussi à ce que les économies, à ce que les États en fait prennent tout un tas de mesures de réforme de leurs économies pour aller vers une libéralisation et pour aller vers cette mondialisation. Et donc pour revenir à la relation avec Israël, en fait, par exemple, pour encourager la collaboration économique entre Israël et la Jordanie, puis entre Israël et l'Égypte, les États-Unis ont mis un, ont mis, ont, avaient mis un, en œuvre un accord cadre qui avait pour principe de dire si une si un produit, une marchandise est produite avec une valeur ajoutée partagée donc entre la Jordanie et Israël, il va pouvoir accéder librement au marché américain. Donc c'est une incitation donnée aux Jordaniens et aux Israéliens de travailler ensemble pour pouvoir exporter vers librement vers les États-Unis. Et donc ça a pris en Jordanie, ça a été mis en place en Égypte aussi. Bon, les Israéliens ont déjà un accord de libre-échange avec les États-Unis à la base, donc ils avaient cet avantage-là seul, mais pour la Jordanie et pour l'Égypte, c'est un gros avantage de pouvoir exporter librement vers les États-Unis. Ça leur a permis, les Jordaniens ont beaucoup joué là-dessus, d'aller voir tout un tas d'entreprises en fait, oui, d'aller notamment dans l'Asie du Sud-Est et d'attirer des entrepreneurs du textile asiatique en leur disant venez vous installer chez nous parce que de chez nous vous allez pouvoir exporter vers les États-Unis. Ça a pris, ça a été une façon de
Et
développer.
c'est pas quelque chose de mineur, hein. C'est vraiment, enfin, ça peut vraiment impacter grandement l'économie de ces pays-là.
Ah, complètement, complètement. Après, ça crée des situations assez folles parce que ça marche pas. Ça marche pas aussi simplement en même temps.
Ouais.
On a une situation un peu folle en Jordanie, donc avec des entreprises asiatiques qui ont fini par importer des travailleurs également asiatiques pour pouvoir exporter vers les États-Unis et qui ont finalement très peu de connexion avec l'économie jordanienne. Donc on se demande finalement qu'est-ce que la Jordanie, sinon un tremplin vers les États-Unis grâce à cet accord de collaboration avec Israël. Enfin, on est dans une économie
Ouais.
très politique, très géopolitique, du coup, on le voit bien. Et donc voilà, c'est un peu ça, et ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire que finalement, c'est la perspective de pouvoir accéder dans de bonnes conditions à l'économie mondiale, et donc notamment à l'économie américaine et occidentale. C'est cette perspective-là qui a incité les régimes arabes à aller vers une collaboration avec Israël, plus que l'économie israélienne elle-même.
Ouais, et c'est la même chose pour tous les pays autour, l'Arabie Saoudite, la Turquie, je ne sais pas, mais je pense aussi tous les pays dans la région, en fait. Ils ont tous une sorte de, voilà, de blocage de développement économique, ou bien de déblocage potentiel, s'ils peuvent atteindre des, enfin, avoir des accords spécifiques alignés avec l'intérêt des États-Unis. Il y a
C'est ça.
aussi, peut-être, je sais pas si, enfin, je n'ai pas trop suivi, mais. Tout ce qui est en relation avec la route de la soie ou bien enfin les routes économiques qui est-ce que tu as suivi un petit peu ce sujet-là qui peuvent passer plus ou moins par Israël ou pas qui peuvent affecter les pays autour aussi?
Mais il y a tout un enjeu, il y a tout un enjeu, j'ai suivi ça de un peu loin. Parce qu'il y a tout un enjeu justement sur la question des circulations. En fait, donc des circulations de flux, de marchandises, de personnes, de capitaux, c'est un gros enjeu. On est en train de parler de la mondialisation. La région du Moyen-Orient est une région carrefour de cette mondialisation, avec une situation géostratégique très forte, très importante. Évidemment, là, les pays de la région l'ont compris. Et donc, ils sont pour beaucoup en concurrence les uns avec les autres pour essayer d'être la plateforme, le hub qui va faciliter cette circulation. Et donc, que ce soit dans les plans américains, ou les plans européens d'ailleurs, par exemple, la question de la circulation le passage du gaz,
Oui.
est bien présente, la question de la circulation des marchandises, donc que ce soit pour les Occidentaux ou pour les Chinois, qui eux ont mis en place ce projet de route de la soie, toutes les parties finalement viennent avec des projets et essaient de voir voilà quelle va être la route la plus intéressante pour eux, et donc il y a cet enjeu-là qui est un peu ressorti là. Avec la guerre, certains en ont parlé comme un arrière-plan à avoir en tête, c'est la question de Israël qui essaie de se positionner pour être le, avec son port, avec le port de Haïfa, comme étant voilà la plaque tournante possible de ces circulations et en fait viendrait faire concurrence au canal de Suez égyptien, qui est une autre qui est une autre voie de passage. Et donc il y a un peu ce voilà ce conflit voilà, en arrière-plan entre cette compétition on va dire en arrière-plan entre l'Égypte et Israël sur la question de quelle va être la voie choisie. Les Israéliens mettraient en place un réseau de chemin de fer qui relierait le port de Haïfa directement à l'arrière-pays jordanien et arabe. Donc voilà, il y a différentes
Ouais.
compétitions et concurrences là-dessus. Mais en fait, toutes les villes nouvelles, d'ailleurs, voilà, que ce soit en Arabie Saoudite, en Égypte ou un peu partout dans la région, toutes ces villes nouvelles et ces ports un peu monumentaux qui sont monumentaux qui sont en train d'être construits, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de d'essayer de capter une richesse. C'est moi je dirais que c'est une autre forme de rente. Hein. On sait que les pays de la région sont des pays voilà avec une économie rentière. Généralement, on pense aux hydrocarbures comme étant
Ouais.
la source des rentes. Et en fait, là, c'est une autre forme de rente, parce qu'il n'y a pas de production à proprement parler, c'est juste capter une richesse
Ouais.
par la circulation qui se fait voilà,
Par les
de cette
taxes.
richesse dans la région.
Ouais. Non, c'est ça. Enfin, pourquoi je reviens sur ça? C'est juste pour expliquer, enfin, essayer de décrire la complexité en fait de la situation. C'est pas juste on est amis, on n'est pas amis. C'est pas aussi simple que ça. Et il y a beaucoup d'enjeux qu'il y a derrière et que voilà. Enfin, même c'est pas pour légitimer quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour essayer de mettre poser un peu le plan. Maintenant, j'aimerais bien revenir du coup sur tes travaux de thèse. Tu parlais du fait que tu as pu travailler, identifier certains points qui, pour contredire le fait que le développement économique ne peut pas se faire sans développement politique. Est-ce que tu peux développer ces points, s'il te plaît, nous expliquer un peu comment est-ce que tu en es arrivé là?
Ouais, donc le point de départ c'était ça. Hein. Je le reprends, mais, comme tu dis, c'était d'arriver à dire, de montrer que finalement l'économie avait toujours été un terrain du conflit. En fait, pour moi, entre-temps, au moment où je commençais ma thèse, j'ai eu un problème d'accès à mon terrain, à la Palestine, parce que entre-temps, je me suis vu interdire l'entrée au territoire par les Israéliens.
Ah ouais?
Et
Pour quelle raison?
purement arbitraire.
Ouais.
Y a pas vraiment besoin de raison en fait.
Ouais.
Voilà, il y a un certain âge avec un certain nom, avec voilà, des consonances arabes et palestiniennes. Ils ont commencé à se faire plus insistants, on va dire, sur les questions et plus contraignants. Donc, voilà, il y a une fois, ça leur a pas plu sur le territoire. En fait, ça a duré quasiment tout le long de à une exception près, bon, j'ai réussi à me rendre à Gaza. Mais à part ça, pendant tout le long de ma thèse, j'ai dû me contenter d'accès à des ressources de seconde main et des lectures. Et en fait, bon, ça m'a poussé à prendre un peu de la hauteur dans ma thèse, y compris sur le plan historique, c'est-à-dire que j'ai élargi la focale, j'ai été lire un peu. Sur voilà les débuts de la présence sioniste en Palestine à l'époque du bon, déjà avant l'époque du mandat mais surtout l'époque du mandat britannique et à m'intéresser à ce qu'a été l'économie à ce moment-là aussi comment est-ce que l'économie était déjà à ce moment-là un terrain du conflit un terrain où se mettait en place la colonisation et ce que ça veut dire concrètement c'est que voilà le mouvement sioniste finalement par rapport à d'autres colonialismes avait cette particularité qu'il avait pas les moyens étatiques de son projet. C'est-à-dire que c'était pas un État qui est venu coloniser une autre région, un autre pays. C'était un mouvement non étatique. Et donc, il n'avait pas les moyens militaires, par exemple, pour mettre en place son projet. Et donc, une des stratégies adoptées par le mouvement sioniste, ça a été la conquête de l'économie. C'est comme ça que c'était formulé. La conquête de l'économie, ça voulait dire, il y a eu des slogans qui étaient des mots d'ordre en fait qui étaient mis en œuvre. C'est la terre juive, le travail juif, la consommation juive. Et donc, on avait une stratégie de réussir à créer des enclaves économiques qui visaient à créer des enclaves économiques strictement juives en Palestine, qui allaient servir de base, en fait, à l'établissement d'une souveraineté juive et donc d'un État juif. Et donc, on voit là, en fait, c'est ce que on peut rapporter à une logique d'élimination, en fait, par l'économie. La logique d'élimination de la population autochtone palestinienne, ce qui est propre au colonialisme de peuplement. Donc ça, on peut l'observer, on a pu l'observer ailleurs. Mais donc on voit cette logique d'élimination, elle est notamment à l'œuvre dans l'économie, donc puisque par le biais de l'économie, par exemple, le mouvement sioniste va créer des fonds qui vont acheter des terres, et ces terres qui sont, enfin, c'est des achats privés. Mais à partir du moment où ces terres sont achetées par des fonds juifs, ils vont devenir une propriété inaliénable du peuple juif. Ce qui veut dire qu'on passe d'un achat privé à quelque chose qui est de l'ordre de la souveraineté politique. Et c'est assez voilà, c'est assez particulier. Enfin, ça mérite d'être relevé. Pour le travail juif, on avait des... Ouais.
Pardon, je voulais dire pour financer tout ça, comment est-ce que tu as pu comprendre un peu comment ils ont pu réussir à créer ce réseau, enfin, ils ont créé un réseau international de tous les Juifs, voilà.
En fait, c'était une des. Donc, je disais que le mouvement sioniste n'avait pas les moyens étatiques de son projet, de son ambition, mais en même temps, ils avaient réussi à développer des ressources financières en s'appuyant sur la diaspora juive principalement, sur les diasporas juives voilà, à travers le monde. Et donc, il y avait des moyens financiers assez conséquents. Après, ils n'étaient pas non plus illimités, hein, et le mouvement sioniste s'est trouvé en difficulté à maintes reprises avant 48, en difficulté parce que voilà, la conquête par l'économie était difficile. Finalement, on ne prenait pas aussi vite que ce qu'il fallait. Il y avait voilà, différentes contraintes. Mais je disais donc, par exemple, la conquête du travail, le travail juif, c'était l'idée d'imposer à tous les employeurs juifs qui arrivaient en Palestine, à tous les patrons, en fait, d'employer des travailleurs juifs. Ce qui n'allait pas de soi, parce que les employeurs, les patrons juifs, en fait, par exemple, dans le travail de la terre, préféraient employer une main-d'œuvre arabe palestinienne, qui était déjà moins chère, qui était plus expérimentée du travail de la terre, qui connaissait le pays, etc. Donc, on va dire que spontanément, ils allaient employer une main-d'œuvre locale. Et le mouvement sioniste a insisté et a mis en place des brigades du travail qui allaient sur les chantiers, qui allaient sur les champs, pour forcer l'emploi de travailleurs juifs. Donc voilà, là on voit bien cette logique d'élimination, tu vois, c'est une toute autre logique que la logique de contournement de la politique par l'économie, le marché, les intérêts communs, etc. On voit bien comment il y a une logique ouais, violente et agressive qui est mise en place par l'économie, et cette logique d'élimination, en fait, elle était déjà à l'œuvre à l'époque du mandat britannique. Elle va continuer après 1948, donc au moment de la création de l'État d'Israël, puisque il a continué à avoir une exclusion du travailleur arabe et de l'économie arabe, et donc par la spoliation, la confiscation des terres, des ressources, etc. Mais donc on a une économie arabe qui s'est de plus en plus réduite, qui a été de plus en plus fragile et de plus en plus dépendante de l'économie juive israélienne. Et ça a été encore le cas après 67 et l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Donc on a une logique d'élimination. Voilà, que c'est cette logique d'élimination vraiment qui peut être retracée. Ensuite, il y a une autre logique qui est une logique d'exploitation, qui est elle beaucoup plus voilà, beaucoup plus facile à qui ressemble, voilà, qui est proche de ce qu'on disent les marxistes, hein. La logique d'exploitation, c'est comment est-ce que, justement, donc je disais, on a des patrons juifs qui vont notamment aller exploiter une main-d'œuvre arabe moins chère, dans des conditions de travail qui sont pas les conditions de travail qui sont qui sont accordés aux travailleurs juifs. Donc on a une logique d'exploitation, c'est aussi l'exploitation des ressources naturelles. Donc c'est l'eau, mais c'est aussi la pierre, le gaz, le pétrole plus récemment, qui ont été découverts.
Oui.
Et en fait, Israël s'est employé à rendre les Palestiniens dépendants, je disais, de l'économie israélienne, pour davantage pouvoir profiter de sa force de travail, de ses capitaux aussi, puisque on va avoir de plus en plus d'entreprises palestiniennes qui vont être des sous-traitantes d'entreprises israéliennes. Donc, c'est-à-dire que c'est des capitaux palestiniens qui sont employés au service de capitaux israéliens. C'est comme
Oui.
ça qu'on peut le former. Et aussi donc d'exploitation de ces marchés de consommation. En fait, il faut savoir, Israël, jusqu'en 67 par exemple, souffrait beaucoup bon, depuis 48, souffrait du boycott arabe et du coup d'un boycott international assez puissant. Et au moment où Israël occupe les territoires de Cisjordanie et de Gaza, en fait, elle va inonder ces territoires-là de ces produits, de ces marchandises, ce qui va donner aussi voilà de la ressource, du souffle à cette économie israélienne. Donc bon, voilà, là on a une logique d'exploitation de toutes les façons possibles pour profiter finalement de cette colonie et de ses ressources et de cette colonie palestinienne.
J'ai deux questions, si je peux me permettre. La première, c'est qui est à l'origine de cette idéologie, bien de cette stratégie, qui a réussi à mettre, à rassembler, en fait. Comment ils ont fait pour rassembler tous les Juifs derrière cette stratégie-là? La première question. La deuxième, est-ce que c'est quelque chose d'unique qui n'a jamais été fait auparavant, ou c'est quelque chose qui a été répliqué, quelque chose s'est passé dans un autre État, enfin, territoire?
Aller rassembler selon quoi tu veux dire dans le
À rassembler tous les juifs de la région derrière cette stratégie-là.
ouais alors bon, en fait derrière le mouvement le projet sioniste c'est un peu ça la question parce que juste pour les logiques que je suis en train de relever donc logique d'élimination d'exploitation et puis il y en a une troisième que je présenterai qui est la logique de coercition ou de contre-insurrection ça c'est des logiques que moi j'arrive voilà, à relever qui apparaissent voilà à différents moments à différents endroits dans différents moments mais elles ne sont pas nécessairement formulées comme telles tout le temps de façon aussi explicite si tu veux en revanche si on parle du projet sioniste là c'est une longue histoire de refaire un peu de mais c'est bon ouais, en gros, il y a, ouais, pour faire l'histoire du projet sioniste, je sais pas si je suis mieux placé pour faire ça ou si on aura le temps, mais bon,
Non, c'est pas nécessaire, hein, c'était juste
ouais. Non, mais
en
par
fait,
rapport.
c'était surtout sur comment est-ce qu'ils ont enfin. Comment est-ce qu'ils ont réussi à rassembler, à convaincre tout le monde, en fait? C'était surtout cet aspect-là.
Mais en fait, c'est pas forcément, enfin, tout le monde n'a pas forcément été convaincu. D'une certaine façon, c'est comme tous les projets, ça prend du temps et y a pas mal de travaux aujourd'hui qui sont menés sur justement les débuts de ce mouvement sioniste et de montrer comment au sein des communautés juives dans le monde, il y avait beaucoup d'opposition à ce projet sioniste qui allait pas de soi, qui était voilà, qui était un projet particulier parmi d'autres et finalement évidemment pas par la force de conviction, mais enfin aussi par la force, par les rapports de force et les rapports de voilà, c'est un projet qui s'est imposé voilà de plus en plus à travers le monde. Et il y a différentes approches, différentes stratégies qui ont été mises en place par le mouvement sioniste. Mais donc, enfin, ouais, peut-être que je peux dire ça, c'est-à-dire que finalement le mouvement sioniste, il avait des moyens financiers puissants. Qui en Palestine même a permis lui a permis de dominer l'économie juive puisque finalement on avait aussi des patrons juifs qui arrivaient en Palestine qui étaient voilà qui venaient dans le cadre du projet sioniste mais qui n'étaient pas forcément voilà qui écoutaient pas qui n'étaient pas aux ordres du mouvement des organisations sionistes et donc notamment voilà, qui pouvaient employer des travailleurs arabe qui pouvait voilà avoir son propre agenda le mouvement sioniste donc là quand je dis le mouvement en fait c'est des organisations précises hein, c'est l'agence juive c'est l'organisation sioniste mondiale etc. donc c'est les différents fonds qui avaient été créés le syndicat de la Histadrout, donc ces différents organes comme ça qui ont été créés par le mouvement pour servir son projet. Et c'est des organes qui vont servir à la mobilisation de la communauté juive au service des intérêts du mouvement. Mais c'est aussi des organisations qui vont être, par exemple, qui vont servir à aller mobiliser, y compris l'appareil du mandat britannique, pour ses intérêts. Donc voilà, c'est des
D'accord.
organisations. Et en fait, le mouvement sioniste s'est doté de ces organes puissants qui lui ont permis de s'imposer et de perdurer.
D'accord. Je
Je
voulais
voulais revenir
continuer
à
sur le...
cette dernière logique donc de coercition. C'est aussi une logique qu'on voit dans l'économie, c'est que finalement, si on parle d'une économie où la population palestinienne a été de plus en plus marginalisée et devenue de plus en plus dépendante et captive de l'économie israélienne, en fait, on comprend très bien comment est-ce que les Israéliens, à tout moment, ils peuvent utiliser, ils peuvent passer par l'économie pour des motifs de coercition. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une révolte, les Israéliens pourront fermer le robinet, d'une certaine manière. Ils vont fermer des points de passage, ils vont
Ouais.
instaurer une restriction sur les trafics, et ça, c'est régulièrement appliqué comme un moyen de pression et de sanction contre la population palestinienne. Là, on l'a vu à Gaza de manière très 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 assez forte, quoi. Mais finalement, le blocus sur la bande de Gaza qui est là depuis un peu plus bientôt ouais, 17 ans maintenant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est de dire la bande de Gaza est fautive, il faut la punir, et donc tout le trafic est interrompu. Et depuis le début de la guerre, les Israéliens ont coupé l'arrivée en électricité, ont réduit très fortement l'arrivée en eau. Donc au-delà de la marchandise, voilà, ça peut aller très très loin, ça peut amener certaines zones à être dans des situations de crise humanitaire, en tout cas d'asphyxie économique d'abord, et puis crise humanitaire durable, comme c'est le cas dans la bande de Gaza. Et donc cette logique-là, voilà, elle est, mais donc là on l'a à l'échelle de toute la bande de Gaza. En fait, la Cisjordanie vit à peu près la même situation à d'autres échelles. Et puis parfois ça va être certaines zones, donc par exemple la zone de Naplouse ou la zone de Jénine, qui vont connaître des mois ou des semaines d'enfermement parce que il y a eu une révolte, ou parce que il y a eu des Palestiniens qui s'en sont pris à des colons, et donc voilà, c'est ces trois logiques. Et ces trois logiques, moi, ce qu'elle me permet de dire, c'est que bon, ces trois logiques qui se combinent en permanence, hein, je te disais, donc c'est pas forcément des logiques qui sont voilà, explicites et explicitement visibles. Mais finalement, on voit bien à travers ces trois logiques que l'économie est vraiment le lieu de rapports de force, de rapports de pouvoir, de conflit, et que c'est pas juste ce moyen de contournement du politique tel que voudrait le penser la théorie libérale.
Ouais. Non, c'est fascinant de comprendre ça d'un point de vue enfin macro comme ça, ou de regarder ça de manière globale. J'ai l'impression que c'est au niveau de la coercition, c'est un peu à moindre échelle peut-être, ou c'est un peu ce qui est fait chez les pays arabes pour les pousser à développer leur économie avec Israël.
Ben oui, ben c'est après c'est finalement
De la part
c'est
des
pas du tout
États-Unis, bien sûr.
extraordinaire, hein, ce qui se passe en Palestine. Moi, souvent, c'est un peu le d'ailleurs le un peu, ma façon de travailler, c'est de dire que en Palestine, comme on est dans une situation de conflit assez permanent et de crise, voilà, on a des choses qui sont rendues visibles de manière très très voilà, c'est évidente là où elles peuvent être moins évidentes ailleurs. Mais en fait, on n'est pas dans un cas, pas du tout dans un cas exceptionnel. Enfin, moi, je me refuse à dire ça. Et donc effectivement, dans la région, c'est le même jeu de la carotte et du bâton. Évidemment, c'est appliqué par les États-Unis de dire soit vous collaborez et vous en verrez, voilà, il y aura des avantages. Soit, si vous ne collaborez pas, il y aura toutes les sanctions prises contre vous. Et évidemment que c'est mis en place
Est-ce qu'on doit comprendre de ça que enfin, l'indépendance et la souveraineté de tous ces territoires-là pourra passer que par une indépendance économique financière?
Ben, c'est un peu le, oui, c'est un peu le sens du propos. Finalement, il peut pas y avoir d'autonomie ou d'indépendance politique sans indépendance économique. Ça peut, enfin, encore une fois, ça peut paraître très banal de dire ça. Fut un temps où les théories, certaines théories économiques arrivaient à le dire sans difficulté. Et pourtant, depuis les années, ouais, depuis la fin des années 80-90, on a cette prédominance des théories libérales, néolibérales, dans l'économie, qui font que, en fait, on a l'impression qu'on parle de deux choses, de deux mondes complètement séparés, quand on parle de l'économie et qu'on parle du politique. Et du coup, de refaire le lien de cette façon-là, comme tu viens de le faire, c'est vraiment, ça a l'air d'être quelque chose d'assez extraordinaire, alors qu'en fait, c'est banal. Enfin, j'ai eu l'occasion, je te disais tout à l'heure, de me rendre à Gaza, et donc Gaza sous blocus, finalement, le gouvernement sur place et les acteurs sur place, en fait, bon, évidemment, très vite compris ça, mais ils l'ont formulé, théorisé, et ont travaillé là-dessus, en fait, de comment est-ce qu'il fallait développer une économie de résistance. Et le principe de base de cette économie de résistance, c'est de dire, il nous faut une économie qui nous permette de ne pas être vulnérable aux pressions et aux sanctions extérieures. Et donc pas seulement israélienne d'ailleurs, y compris internationale, puisque l'origine un peu de ce blocus sur la bande de Gaza, c'est quand même la communauté internationale qui refuse de reconnaître le Hamas qui a gagné les élections de 2006. Et donc ça va entraîner une crise interne palestinienne, voilà, tout un tas de complications, mais finalement ça montre que cette aide internationale qui était là pour faire goûter aux Palestiniens, je disais tout à l'heure, les dividendes de la paix, finalement c'est aussi un moyen de coercition assez puissant, puisque quand les Palestiniens prennent les mauvaises décisions, eh ben l'aide internationale est coupée. Et en fait, les Palestiniens sont tellement dépendants économiquement qu'évidemment, ça a un effet très concret. C'est-à-dire que couper l'aide, c'est un moyen de pression puissant sur la population palestinienne.
Ouais. Et c'est un sujet qui est, enfin, n'est pas très lié, mais c'est aussi l'intérêt des BRICS, donc cette organisation qui est en train de se développer petit à petit avec le Brésil, la Chine, l'Iran, etc. Il y a cette volonté de la part de pas mal de pays dans le monde. De justement d'essayer de créer une économie résiliente qui serait indépendante des pressions américaines et autres.
En tout cas, on s'élève un peu dans l'analyse, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose, peut-être pas une économie résiliente, je sais pas, ça dépend, je pense que chacun de ces pays a sa façon propre de formuler les choses, mais en tout cas, l'idée, elle est bien, l'idée du BRICS élargie, elle est bien de pouvoir sortir de cette unipolarité mondiale qui est donc dominée par les États-Unis et par le camp occidental, et l'idée, elle est de pouvoir, voilà, sortir de ça. Parce qu'évidemment, quand il n'y a qu'un seul pôle, et qu'en plus il lui arrive d'être belliqueux et d'être voilà, d'être violent, c'est très vite imposer sa volonté politique à tous les autres. Et voilà. Ça, effectivement, je pense que le fait de réussir à créer d'autres pôles et d'équilibrer, on va dire, les rapports de force dans le monde, c'est une bonne chose. On va vers quelque chose d'intéressant, en tout cas.
Oui. Je ne sais pas si tu as suivi de près donc, la décision de la Cour de justice internationale. Donc récemment, il y a eu une décision, je crois qu'ils appellent ça une décision préliminaire, je crois, par rapport au fait qu'il se passe un génocide. Donc enfin, la décision a été qu'il est possible donc qu'il se passe un génocide. Ils sont pas spécialement pris parti, définitif. J'ai entendu beaucoup de choses comme quoi c'est des gens disent que c'est une victoire pour les Palestiniens. Ou que ce n'est pas une victoire, plutôt une victoire pour les Israéliens, parce qu'il n'y a pas eu de décision franche sur le fait que ce soit un génocide. Comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte aussi de ce qui s'est passé et comment tu vois les choses? Est-ce que c'est vraiment un succès pour les Palestiniens ou non?
Bon, je peux revenir rapidement là-dessus. C'est vrai que je suis pas le mieux équipé pour en parler, puisque je suis pas juriste et du coup j'ai suivi ça un peu comme tout le monde. Mais l'origine de l'affaire, c'est donc l'Afrique du Sud qui s'est saisie de la Cour internationale de justice en mettant en cause donc Israël pour crime de génocide. Avec cette perspective-là, d'après ce que j'en ai compris, que à partir du moment où la CIJ acceptait de se saisir de l'affaire, ça voulait dire que il y avait donc potentiellement un génocide qui était en train d'être commis, et ça permettait à la Cour de prendre un certain nombre de décisions de manière à mettre un terme là tout de suite à la guerre en cours pour éviter que ce génocide puisse se faire. Donc ça, c'est un peu le, voilà, en résumé, le gros de l'affaire. Et alors, est-ce que c'est une victoire ou non? Moi, d'après ce que j'en ai compris, encore une fois, il semblerait que oui. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup, et y compris ici, peut-être surtout ici en Palestine, on s'attendait à ce que, finalement, la Cour internationale de justice acte tout de suite un cessez-le-feu. Et impose cette décision aux Israéliens. En fait, de ce que j'en ai compris après coup, puisque moi j'ai été d'abord un peu déçu, comme tout le monde ici, mais en fait de ce que j'en ai compris, c'est que cette décision ne pouvait pas être prise pour des décisions même techniques, enfin, liées à à la situation légale, et parce que pour que ce cessez-le-feu soit décidé, il faut que ça se fasse entre deux parties égales. Donc, dans un conflit entre deux États, la Cour est en mesure d'imposer un cessez-le-feu aux deux parties de la même manière. Or là, on est dans un conflit qui oppose un État à un mouvement ou à une population. Et en fait, du coup, légalement, la Cour n'est pas en mesure d'appliquer, voilà, de faire appliquer ce cessez-le-feu. Et donc, mais finalement, il semblerait que, voilà, en fait, toutes les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire d'imposer à Israël de permettre à l'aide humanitaire d'entrer, et voilà, je sais plus, là, j'ai plus le détail de toutes les décisions, mais que finalement, c'est un certain nombre de décisions qui, de facto, signifieraient, si Israël les mettait en place, signifieraient un cessez-le-feu. La question, donc, elle est pas celle de la décision de la Cour de justice, parce qu'on est dans, finalement, on est dans quelque chose d'historique quand même. C'est-à-dire que là, on a une Cour internationale de justice qui a désavoué Israël, et publiquement, officiellement, c'est une première. C'est quelque chose d'important qui est en train de se passer, et pas seulement pour les Palestiniens d'ailleurs, y compris pour la communauté internationale. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de assez historique qui s'est fait, mais qui est très sensible, parce que bah, la décision de la Cour internationale de justice ne suffit pas en elle-même. Il faut ensuite que ces décisions soient appliquées, reprises par le Conseil de sécurité, et puis on sait que c'est là que ça bloque, en fait, parce que
Oui.
les différents États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont déjà, par leur déclaration, enfin, laissé entendre que finalement, cette décision de la Cour n'allait pas être, n'allait pas entraîner de décision ferme de leur part.
Ouais.
Donc c'est un peu là. Voilà. Donc on est, c'est pas qu'une décision symbolique. Je pense que c'est plus que ça. Ça va donner des armes là à tout plein de juristes de continuer à poursuivre Israël. Mais en tout cas, ça ne permet pas un cessez-le-feu immédiat, et donc ça permet pas là, de sauver les vies qui pourraient être sauvées
Ouais,
là
ouais.
tous les jours, quoi.
De ce que j'ai compris, bon, l'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS, ce mouvement-là, il permet encore une fois de décrédibiliser ou de montrer l'hypocrisie, en fait, parce que du coup, on sait très bien qu'au niveau des Nations Unies, les États-Unis vont encore poser leur veto prochainement. Bon, je sais pas quand, si le podcast sort, je sais pas où ça en sera. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de rassemblement aux Nations Unies pour voter quoi que ce soit. Mais probablement, à 99% de chances que les États-Unis posent leur veto pour une demande de cessez-le-feu. Et du coup, ben, au niveau des BRICS, voilà, au niveau du Grand Sud dans le monde, même dans le monde, ça montrera un peu encore plus du coup l'hypocrisie, ça délégitimera les États-Unis. Donc c'est peut-être quelque chose de plus long terme. Ce qui est en train de se passer, c'est historique dans le sens où au long terme, on aura tout les records, donc les éléments pour montrer que voilà que les États-Unis, que ces institutions-là sont biaisées, n'ont aucun sens et ne servent à rien quoi. C'est comme ça que je vois les choses personnellement.
Ce qui est sûr, c'est que déjà l'initiative sud-africaine, puis la décision de la Cour internationale de justice sont des pas supplémentaires vers l'isolement et la criminalisation d'Israël, et également donc vers l'isolement ou au moins en tout cas le désavouement du camp allié d'Israël, quoi. Et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire de montrer que de montrer à ce camp-là, donc les États-Unis en tête, que il n'est pas possible de continuer à soutenir Israël comme ça, impunément, et dans sa folie guerrière et meurtrière, quoi qu'il arrive. Enfin, il y a un coût à ça. Il doit y avoir un coût à ça. Donc, bon, c'est un pas de plus dans cette direction. Donc, c'est une bonne chose.
Très bien. J'aimerais comprendre un peu plus, vu que toi, tu es sur le terrain à Jérusalem. Actuellement, quelle est la situation? Comment se passe l'économie, justement, vu qu'on parle d'économie? J'avais vu un chiffre, je crois que 30% de la population de la Cisjordanie palestinienne est au chômage. Peut-être c'est plus. Quelle est la situation sur place?
Ben, ouais, on peut peut-être commencer par dire quelques mots sur la bande de Gaza. En fait, même si évidemment l'ampleur du désastre, des destructions, le nombre de victimes fait que bon, parler d'économie, ça peut paraître un peu ouais, un peu, je sais pas,
Secondaire.
ouais, secondaire. Mais bon, c'est peut-être un moyen de revenir un petit peu sur la situation que vivait aussi la bande de Gaza déjà avant la guerre. Donc, je disais tout à l'heure que on est sur un territoire qui est sous blocus depuis 2007 déjà. Sous blocus, ça veut dire que en fait Israël contrôle les voies d'accès terrestres, maritimes, aériennes et impose des restrictions sur la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux, de la monnaie par exemple. Et en fait le seul point de passage qui subsiste, c'est celui qui est c'est le point de passage de Rafah avec l'Égypte. C'est le seul point d'accès en fait qui n'est pas directement contrôlé par Israël, mais bon, il est réservé aux personnes. Donc il n'a pas vraiment de fonction économique. Et donc sur le plan économique, Israël contrôle toutes les voies d'accès. Et on a eu des phases plus ou moins sévères hein, depuis 2007 de ce blocus. C'est-à-dire que Israël à chaque nouvel accord de cessez-le-feu, donc il y a eu différentes guerres sur la bande de Gaza, et à chaque fois dans les accords de cessez-le-feu, les Palestiniens négociaient à ce qu'il y ait une levée partielle du blocus, c'est-à-dire permettre à plus de marchandises d'entrer sur le territoire. Et donc voilà, on a eu des moments plus sévères que d'autres, mais de toute manière. Dans l'ensemble, on a un niveau d'importation et d'exportation qui est très en deçà de ce qu'on avait avant 2007. Donc voilà, un blocus qui s'est maintenu depuis tout ce temps. Quand on parle de blocus, c'est des matières premières qui n'arrivent pas à rentrer, c'est des machines pour l'industrie, pour l'agriculture, pareil, qui ne rentrent pas, pour les télécommunications aussi. C'est aussi des marchandises que les producteurs palestiniens, agriculteurs ou industriels, n'arrivent pas à exporter. Et on avait donc un taux de chômage déjà avant la guerre dans la bande de Gaza qui avoisinait les 40 à 50% de la population, ce qui évidemment est énorme. Et donc voilà, par-delà toutes les destructions et les victimes là qu'on a à Gaza là dans la guerre, en fait c'est toutes ces restrictions-là qui ont été réimposées à leur niveau maximal depuis le début de la guerre. Donc depuis plus de 3 mois maintenant. Bientôt 4, et rien n'entre, rien ne sort, si ce n'est une aide humanitaire, voilà, mais très largement insuffisante, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais donc, voilà, on est vraiment face à une économie qui est sinistrée depuis le début de la guerre, et là, les chiffres, bon, il y a des chiffres, mais pareil, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire, mais évidemment, il y a différents organismes, on va dire, qui essayent depuis le début de la guerre, là, de faire des estimations de ce que coûte cette guerre à l'économie palestinienne. Bon, c'est pas trop mon approche, donc je m'élargirai pas
Ouais.
là-dessus, mais c'est un coût évidemment faramineux.
Ouais.
D'un autre côté, en Cisjordanie, on a aussi une économie qui est en grande difficulté depuis le début de la guerre, parce que finalement, je le disais aussi tout à l'heure, la Cisjordanie n'est pas plus libre. C'est-à-dire que c'est également Israël qui contrôle toutes les voies d'accès vers ce territoire. Donc il y a une circulation qui se fait plus voilà plus grande. Mais depuis le début de la guerre, en fait, pareil, il y a des restrictions qui ont été imposées, qui sont revenues. Et donc on parle notamment en Cisjordanie, en fait, de restrictions à la circulation à l'intérieur même du territoire. C'est pas seulement à l'extérieur. C'est pas seulement la Cisjordanie avec son extérieur. Et en fait, on a des routes en Cisjordanie de fait de la présence des colonies. On a des routes qui sont entrecoupées de barrages militaires et où les Palestiniens vont subir un contrôle encore plus sévère donc depuis le 7 octobre. On a aussi des violences commises par les colons et l'armée qui vont s'en prendre régulièrement aux Palestiniens qui sont isolés, aux agriculteurs par exemple. Il y en a qui se sont fait tirer dessus sur leurs champs. Les Bédouins qui se trouvent dans des zones un peu marginalisées, pareil, se sont en train de subir une violence encore plus forte depuis le 7 octobre, et il y en a beaucoup qui ont été chassés là de leur terre et de leur et avec leur bétail. Et on a donc des restrictions voilà, qui ont été je disais, elles ont eu pour effet un ralentissement de l'activité économique en Cisjordanie. Il y a un autre phénomène qui est celui des permis de travail. En fait, il faut savoir, je disais tout à l'heure, donc les Palestiniens sont très dépendants de l'économie israélienne. Et en fait, il y a un phénomène qui est qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent dans l'économie israélienne. Il y a un moyen pour les Israéliens d'exploiter cette main-d'œuvre. Et c'est aussi un moyen de contre-insurrection puissant, puisque bah, quand il y a un problème, les Israéliens annulent, révoquent les permis de travail. Ce qui arrive généralement de façon ponctuelle et localisée. Mais là, ça a été à l'échelle de toute la Cisjordanie. Et donc, on a voilà, plus de 200 000 travailleurs de Cisjordanie qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi. Ce qui explique le chiffre que tu donnais, c'est-à-dire que avant la guerre, on était à quelque chose comme 14% de chômage environ en Cisjordanie. Et aujourd'hui, effectivement, les chiffres parlent de plus de 30%. Mais c'est un chiffre qui pourrait encore voilà, augmenter très très vite. Parce qu'on a ces travailleurs qui sont sans travail aujourd'hui, ils sont privés de revenus. Là, on parle d'à peu près 20% de la force de travail de Cisjordanie, donc c'est pas rien. Un dernier point peut-être ici, c'est celui des taxes. En fait, étant donné que c'est Israël qui contrôle les frontières palestiniennes, c'est aussi Israël qui collecte les taxes sur les importations palestiniennes et qui les reverse, en théorie, à l'autorité palestinienne. Et pour l'autorité palestinienne, ces recettes-là, c'est une grosse partie de son budget. Sauf que depuis le début de la guerre, les Israéliens ont retenu ces taxes, donc ont cessé de les reverser. Et donc, on a une autorité palestinienne qui est en difficulté pour payer ses dépenses et pour rémunérer ses fonctionnaires. Et donc, là aussi, on a encore une grosse partie de la force de travail palestinienne qui est sans revenu. En fait, depuis le début de l'hiver, là, déjà des revenus qui sont payés avec retard, donc avec 3 à 4 semaines de retard parfois, et qui sont payés, donc il y a eu un salaire qui a été de 50% pour le mois d'octobre, qui a été versé fin novembre, et un salaire de 75%, celui de novembre, qui a été versé là, au début de l'année, quoi. Donc il y a beaucoup de retard dans le versement des salaires, et ça affecte aussi l'activité économique. Donc voilà, ça donne une idée de ce niveau d'asphyxie économique, en fait, où très vite, quand les Israéliens décident de couper les robinets, de fermer les frontières, les Palestiniens se retrouvent très vite en situation d'asphyxie.
Peut-être un dernier mot, peut-être la situation des Israéliens eux-mêmes, puisque eux aussi pâtissent de la dans leur économie, j'imagine. Qu'en est-il vraiment? Parce que j'ai essayé de faire des recherches un peu sur Internet, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a aussi des personnes, je voyais au début du conflit, qui quittaient le territoire d'Israël, toi, t'es occupé. Beaucoup de personnes qui venaient des travailleurs de Thaïlande, tout ça, je voyais qui ont quitté le territoire. Est-ce qu'il y a une exode aussi de d'Israël qui continue aussi à se faire ou ça s'est terminé, ils ont stabilisé la situation? Est-ce que tu peux voir, toi, ils en parlent un peu là-bas?
Non, c'est vraiment le point sensible qui est très très difficile à mesurer. Ce qu'on sait, c'est que les zones qui sont dans le pourtour de la bande de Gaza et les zones qui sont à la frontière nord avec le Liban, c'est des zones qui ont été, voilà, c'est des villes qui ont été vidées, des agglomérations israéliennes
Sur
qui
plusieurs
ont été vidées
kilomètres
sur
de...
plusieurs. Par contre, voilà. Concernant le fait que les Israéliens aient quitté le pays, ça, on sait que c'est vrai, on sait que ça existe. Il y a parfois des médias israéliens qui font fuiter des chiffres, mais dont on ne connaît pas ni les bases ni la véracité.
Ni l'ampleur. Ouais. Ok, bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais finir par quelques petites questions rapidement. Quelle est la compétence qui t'est toi personnellement le plus utile au quotidien dans ton travail?
Ouverture d'esprit.
Ouais.
Ouais.
Pourquoi? Parce que tu parles avec des personnes souvent avec lesquelles tu es en contradiction par leurs avis ou quoi?
Ouais, puis parce que je pense que pour mener de la recherche, en particulier, il faut être capable de comprendre, on va dire, les logiques. Les logiques d'action des gens en présence et de les accepter pour ce qu'elles sont et pas de les surinterpréter pour ce qu'on a envie qu'elles soient.
Ouais.
C'est un peu ça, je pense, l'ouverture
Ouais.
d'esprit, pas surinterpréter parfois les acteurs disent ce qu'ils font et ont une logique d'action et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, finalement, ça ne doit pas impacter notre façon de lire cette action-là.
Très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais dans tes travaux de recherche?
Bah déjà, le fait de pouvoir, je pense vraiment, pouvoir apaiser ma curiosité intellectuelle, c'est-à-dire de pouvoir choisir finalement les sujets sur lesquels je travaille. D'une certaine façon, on choisit jamais complètement, mais d'arriver quand même à pousser les réflexions que j'ai envie de pousser au fur et à mesure que j'avance dans mon travail. Je crois que c'est ça, hein, qui me intéresse le plus.
Est-ce que tu as des routines, donc toi tu es à Jérusalem, des routines quotidiennes hebdomadaires qui t'aident à garder l'énergie, à te motiver, à progresser
Je sais pas, mais là, dans le contexte actuel, c'est plutôt il a fallu que je fasse un effort assez important sur moi-même déjà pour me décoller des infos
Ouais.
depuis de la guerre. On a passé moi et en fait un peu tout le monde ici, on a passé beaucoup d'heures à juste essayer de comprendre ce qui était en train d'arriver.
Ouais.
Et je pense que ouais, la première chose qu'il a fallu que je fasse, c'est de me discipliner un petit peu et d'essayer d'avancer quand même
Ouais.
malgré tout voilà de faire des choses en fait de pas juste rester
Être
scotché.
paralysé. Est-ce que tu as une recommandation de livre, documentaire, quoi que ce soit que tu recommandes? Peut-être un truc qui t'a marqué récemment ou il y a longtemps?
Là aussi tu me prends au dépourvu, j'ai tellement
Tellement. Ah, c'est
de
ça avec les
choses mais
chercheurs, c'est compliqué.
Ouais, et puis en fait on lit mais c'est pas de la vraie lecture tu sais ça fait longtemps que j'ai pas lu un bouquin du début à la fin comme ça on y traite en fait on pioche beaucoup dans
Ouais.
plein de lectures donc je sais pas trop quoi conseiller
Non, c'est pas grave.
je
Si c'est quelque chose qui te revient après le podcast, tu pourras m'envoyer, je les mettrai en référence.
avec plaisir
Ouais.
bien sûr.
Et enfin, dernière question, si un auditeur ou une auditrice souhaiterait soit suivre ton travail ou bien aussi te contacter pour une question ou quoi que ce soit ou te faire un feedback, est-ce que c'est possible?
Ben oui, avec grand plaisir.
Pour te suivre, est-ce qu'il y a, tu as un site internet ou quelque chose, une chaîne?
J'ai ma page sur le site de l'IFPO, de l'Institut de recherche.
OK.
Il y a mon adresse mail
Ok,
sur la page
très bien.
du profil.
Ok, nickel. Bah écoute, Tahar, je te remercie pour cet échange très constructif. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup.
Merci à
Ça fait
toi,
plaisir de
Amir.
voir qu'il y a des personnes sur le terrain qui essaient de, voilà, de comprendre la situation et de, voilà, de faire changer les choses à leur échelle, parce que tes travaux de recherche derrière, Inch'Allah, on espère que ça aura un impact long terme. Du coup, je demande à Dieu qui te facilite dans tes travaux de recherche, t'as de la bénédiction
Amir,
derrière.
je t'apprécie à Dalaran. Et merci à toi pour cette chance-là que tu m'as offerte de partager un peu mon travail et mes réflexions. C'est
Je t'en
toujours
prie.
important, toujours.
C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je te remercie beaucoup, Tahel, et je te souhaite une très bonne journée. Salam alaikum.
Comme ça.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.